des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans Le Temps des Écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale car nous passons cette heure avec le prix Nobel de littérature Orhan Pamuk qui nous a déjà fait l'honneur de cette émission et nous l'en remercions. Bonjour Orhan Pamuk.
Good morning, bonjour.
Bonjour.
Et je salue d'ailleurs l'excellent Michel Zlotowski qui sera votre interprète, qui l'est déjà d'ailleurs. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, je rappelle quand même Orhan Pamuk, né en 1952 à Istanbul. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans qui ont bouleversé les lecteurs dans le monde entier. Parmi eux, Neige, Mon nom est rouge, Le musée de l'innocence, qui est devenu d'ailleurs, on en parlera, un véritable musée. Et cette chose étrange en moi, grande fresque sur Istanbul, Istanbul dont vous ne cessez de creuser en archéologue les strates temporelles et de reconstruire en architecte la passionnante structure mémorielle. Vous êtes aussi un homme de grand courage quand vous vous exprimez sur les événements politiques qui secouent votre pays, au point d'avoir été accusé d'insulte à l'identité turque par le régime et menacé de mort par des ultranationalistes qui étaient excédés par vos prises de parole sur le nombre d'Arméniens ou de Kurdes tués en Turquie. Vous publiez chez Gallimard un nouveau roman passionnant, très mythologique, très contemporain aussi, La femme aux cheveux roux, qui est traduit donc du turc par Valérie Gay Aksoy. Et ce livre est loin en fait de l'épopée de 600 pages qui était offerte par votre précédent roman, hein, Cette chose étrange en moi, qui nous racontait sur plus de 60 ans la vie du petit peuple turc plongé dans les métamorphoses urbaines et politiques de la mégalopole Istanbul. Là, il s'agit d'un livre court qui se lit comme un conte initiatique sur la filiation. C'est une histoire d'amour aussi. C'est aussi, au fond, une sorte de tragédie grecque, on pourrait dire une tragédie turque, puisqu'il est question de revisiter le mythe d'Œdipe, mais aussi son avatar oriental. On apprend beaucoup de choses d'ailleurs. Il y a un avatar oriental de ce mythe d'Œdipe, ça s'appelle la légende de Rostam et Sorhab. Dans les deux cas, un père et un fils qui ne se reconnaissent pas et qui s'infligent la mort. Dans la version occidentale, on le sait, c'est le fils qui tue le père. Dans la version orientale, c'est le père qui tue le fils. Une parabole peut-être sur les régimes autoritaires. Vous nous le direz peut-être, Orhan Pamuk. En tout cas, on va en parler avec vous. On est très heureux de vous accueillir. Et d'abord, Orhan Pamuk, comment allez-vous ?
I'm very happy to be in
Paris. Je suis très heureux d'être à Paris.
Intense,
ma vie est très intense, mais en mauvaise période politique en Turquie, puisque je ne suis pas un militant, je travaille tout le temps. La situation me rappelle les jours où j'ai écrit le livre noir. Pourquoi ? Parce que beaucoup de mes amis étaient à l'époque en prison. Moi, je me sentais coupable, parce que moi, je n'étais pas quelqu'un de politique pour pouvoir me retrouver en prison. Et ils étaient en prison pour activisme à l'époque. Aujourd'hui, les gens sont en prison simplement pour le fait d'écrire. Mais à l'époque, je me sentais coupable, j'écrivais. Là, bon, je me sens un peu coupable d'être en Turquie et d'écrire. Vous savez, je suis prof à l'Université de Columbia, mais j'y suis pour un semestre, mais je veux rentrer à chaque fois en Turquie. Pourquoi ? Il n'y a pas d'explication. Je me promène dans les rues et quelqu'un me dit « Ah, vous n'êtes pas en Amérique ? Vous êtes ici ? C'est super que vous soyez ici. » Je ne sais pas si c'est une explication à cela. Une autre explication, c'est que finalement, oui, je survis et je ne peux pas vivre sans Istanbul. Et voilà, il y a beaucoup de raisons pour revenir. C'est mon pays, je veux me battre et faire quelque chose avec les autres. Et oui, je suis un petit peu plus optimiste maintenant. Peut-être pas tout à fait maintenant parce que j'ai perdu beaucoup de mon optimisme. Mais il faut toujours un petit peu d'optimisme pour survivre. Même si une partie de votre esprit sait que, allez, c'est pas du véritable optimisme. Mais on en a besoin quand même.
Quand vous étiez venu la dernière fois, Orhan Pamuk, vous nous aviez dit que vous étiez en colère et très déçu de ce que votre pays était devenu. Et vous aviez eu cette formule très très forte. En Turquie, la liberté de penser a vécu. Et c'est vrai que vous étiez encore optimiste. Là, vous venez de nous répondre sur l'optimisme, mais qu'est-ce que ça fait d'être un écrivain encore ? Est-ce que c'est difficile d'être un écrivain dans un pays où la liberté de penser a vécu ?
La liberté de penser est terminée pour des gens qui écrivent dans les journaux et de façon ouverte, et même en douce, qui critiquent le gouvernement. Finalement, moi j'écris des romans, et dans mes romans, il n'y a pas de Erdogan.
Et
c'est ce qui est le plus problématique. Finalement, moi, je suis un écrivain, c'est ce que je fais de mieux. Je voudrais peut-être vous dire ceci. Je me rends compte que ma voix est coupée, a été coupée en Turquie il y a 2 ans, quand le principal quotidien turc, Hurriyet, m'a demandé une interview. Je dis d'accord, de très heureux avant le référendum, parce que la situation était à 50-50, et Hurriyet est lu par toute la nation, même par des soutiens d'Erdogan qui lisent Hurriyet. Je dis d'accord. Et un jour, Hurriyet, l'éditeur, m'a dit « Je suis désolé, je ne peux pas publier votre interview. » Et ça montre que j'étais pas très radical, j'étais un peu cynique, je me moquais un peu d'eux, mais j'étais pas très radical, pas très extrémiste. Et là, je me suis rendu compte que je ne peux même plus publier, alors que je suis un des écrivains turcs les plus célèbres, je ne peux pas publier une interview dans le principal quotidien turc avant les élections. C'est un signe qu'il n'y a plus de liberté d'expression. J'ai donné des interviews, j'ai expliqué cette situation au Financial Times quand ils m'ont demandé « Est-ce que vous êtes désolé de ne pas pouvoir parler à vos lecteurs ?» Ben, vous savez, moi j'ai répondu « Mais attendez, les lecteurs de la femme aux cheveux roux, il y a 500 000 lecteurs. Et en fait, mon livre s'est vendu plus que le tirage de Hurriyet. Ce n'est pas une consolation, parce que Hurriyet, ce n'est plus qu'un un journal gouvernemental, et c'est toujours en vente. Voilà.
Vous m'avez dit aussi la dernière fois que vous étiez très déçu par l'attitude de l'Union européenne. Vous êtes en Europe, là, aujourd'hui. Qu'est-ce que devrait faire l'Europe qu'elle ne fait pas? Pourquoi ça vous déçoit? En quoi vous êtes déçu, en fait?
C'est un problème très sensible. Je veux dire ce qui est en cause. Je suis connu en Turquie comme étant un pro-européen. Et je ne veux pas exprimer mes sentiments contre l'Europe, parce que les conservateurs seront tellement contents. Donc je dois parler à l'establishment européen et aux intellectuels et aux bien-pensants libéraux en leur disant que il faut que vous rendiez compte que peu vous chaud de la liberté d'expression et des libertés individuelles en Turquie. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de donner de l'argent au gouvernement turc et que le gouvernement turc soit le gardien des portes de l'Europe pour que vous ne voyiez pas, vous ici, des musulmans. Vous donnez de l'argent au gouvernement turc pour que la vision des musulmans ne vous obsède pas et vous appelez ce gardien islamiste. Non, c'est trop. Est-ce que vous pouvez réfléchir à ce que vous faites? Oui, j'admire l'Europe. Je suis comme dans les possédés de Dostoïevski. J'admire encore l'Europe. Et Dostoïevski rigole de ces libéraux-là. Je suis toujours libéral. Mais mettez en question votre attitude. L'Europe a une telle profondeur, ça ne doit pas être simplement un musée. Les Européens doivent être actifs. Vous savez, l'Europe construite par vos ancêtres devrait être loyaux, fidèles à ses principes. L'establishment européen, comme si c'était de garder ce merveilleux musée européen. Je suis très très heureux d'être à Paris, je suis très heureux d'être dans ce musée. Mais ce qui est autour de vous, qu'en est-il ?
Précisément, en vous écoutant parler, je pensais à tous ces écrivains français qui ont sublimé Istanbul, qui ont écrit des pages magnifiques sur Istanbul, qui s'intéressaient à Istanbul. Je pense à Pierre Loti, je pense à Gautier, je pense à Nerval, je pense à votre idole Flaubert. Vous avez même dit « je suis Gustave Flaubert », comme lui disait « je suis Madame Bovary ». Est-ce que ça ne vous déçoit pas aussi de voir au fond que l'Europe regarde beaucoup moins du côté d'Istanbul. Il n'y a plus cette fascination des écrivains.
Non, je ne suis pas déçu. C'est un développement naturel, bien sûr. Pierlotti ou Gérard de Nerval. En fait, Théophile Gautier et Gérard de Nerval ont écrit de façon extrêmement réaliste beaucoup mieux que Pierlotti. Pierlotti, je ne l'aime pas trop. Mais finalement, les Turcs avaient besoin, comme je l'ai écrit à ce sujet dans mes livres sur Istanbul, que les Turcs avaient besoin de la vision occidentale pour qu'ils puissent reconnaître leurs propres particularités, comme vues par les Occidentaux. Mais ce n'est pas seulement les Turcs. Le monde entier a appris la définition de leur propre identité par l'Europe. Ensuite, l'Europe a appris sa propre identité par rapport aux autres. Mais finalement, on n'a plus besoin de Théophile Gautier ou Pierlotti. Maintenant, les Turcs, nous, moi, j'écris au sujet de mon pays, de ce pays. Et j'écris de l'intérieur. Vraiment, je suis reconnaissant même à Pierlotti.
Est-ce que parfois vous les relisez, justement, ces auteurs, même il y en a eu d'autres, hein, qu'on appelait orientalisme. Est-ce que parfois cet orientalisme vous aide à prendre une distance, peut-être aussi, puisque vous êtes de l'intérieur, de les relire, est-ce que ça influe sur votre travail? Est-ce que de temps en temps vous le faites?
Je ne lisais pas tellement. Enfin bon, je lisais Gustave Flaubert. Mais mon livre Istanbul, c'est une revue de leurs écritures. Quand je vais dans un quartier d'Istanbul, je me dis, qu'est-ce que Théophile Gautier en a écrit? Oui, je regarde ça de cette façon-là. Mais je change en fait la façon dont je regarde mon temps. Ils ont établi une image d'Istanbul dans l'histoire turque qui ne sera jamais effacée.
Orhan Pamuk, un écrivain reste un lecteur?
Oui, bien sûr.
Et
on lit, on réagit, on apprend, on le tourne. Il n'y a pas d'écriture sans autres écrivains. Tous mes personnages, moi aussi, moi je suis quelqu'un de textuel, véritablement.
Alors j'ai une image de vous, grâce à déjà à vos livres et puis à un très très beau film qui avait été fait sur vous, qu'on avait vu ensemble, Innocence of Memories, où on vous voyait déambuler dans les rues d'Istanbul, souvent la nuit, pour observer. Quand je disais tout à l'heure, la liberté de penser a vécu en Turquie, c'était l'une de vos phrases. Est-ce que vous prenez toujours le même plaisir à vous promener le soir dans les rues d'Istanbul? Comment vous le faites? Est-ce que c'est dangereux?
Je ne suis pas au sein des luttes politiques. J'ai un garde du corps, pas contre des attaques planifiées, mais si quelqu'un passe dans la rue, se souvient de mes critiques, qu'il soit un peu saoul, il pourrait me donner un coup de poing. Oui, bon. Mais avoir un garde du corps pour les 10 dernières années, ça m'a aidé en tant qu'écrivain. Parce que, alors, quand j'écrivais Cette chose étrange en moi, j'allais dans les quartiers les plus dangereux, entre guillemets, et je rentrais dans des lieux où on pouvait pas entrer normalement, et le garde du corps me protégeait. J'ai encore mon garde du corps, et récemment, on est allé dans des quartiers où il y a de la drogue, et les gens s'approchent de vous, et quand on voit le garde du corps, bah, les gens s'écartent. Ah oui, moi je suis un écrivain, c'est tout. Point. Je suis un écrivain. J'ai eu le plaisir d'avoir les services d'un garde du corps qui me permet de voir le monde.
C'est drôle parce qu'en vous écoutant, il y a un mot qui me vient, c'est le mot ironie, en fait, parce qu'on sent, voilà. C'est ça qui définirait la Turquie aujourd'hui, l'ironie, en fait.
Oui, c'est peut-être ça. Je le confesse, au cours des dernières années, je suis devenu plus ironique, principalement dans les interviews. Maintenant, si on ne peut pas dire la vérité, et si on est choqué par l'énormité de la vérité, À ce moment-là, au lieu de dire le gouvernement ne fait pas bien, je dis le gouvernement fait les choses si bien. Ils ont construit 20 prisons de plus. Elles sont tellement bien. Il y aura tellement de gens qui pourront y aller. Et ils en sont fiers. Et donc, il faut être positif dans la vie. Ce sont des bons constructeurs de prisons.
Oui. En fait, oui, c'est plus l'ironie flaubertienne que Kafka, en fait, c'est ça?
Non, Flaubert.
L'ironie de Flaubert était trop cynique pour moi. J'admire, je continue d'admirer Flaubert. Continuer à avoir ce cynisme est possible si vous ne vous mariez pas.
Alors, ce nouveau livre, Orhan Pamuk, se passe encore à Istanbul et dans ce qui n'était pas encore Istanbul et qui est devenu Istanbul, puisque la ville a grossi. Et c'est toujours ça, votre combat, d'écrire cette ville qui est devenue une mégalopole. Vous présentez en ce moment à Istanbul Balkon, qui est une exposition de 600 photographies qui sont sélectionnées sur plus de 8500 photos que vous prenez toujours du même point de vue. Sur votre balcon, donc on voit le Bosphore, on voit la ville. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce balcon, d'abord, pour que les auditrices et les auditeurs le visualisent?
Comme j'écris dans Istanbul, je suis quelqu'un de très visuel. Vous savez, je voulais être un peintre, un artiste peintre. Je prends des photos depuis 40 ans, de façon amateur, je les mets de côté. Un jour, Gerhard Stedel, qui est un éditeur de photos, qui est venu pour une introduction sur l'art. Et j'ai dit, d'accord, je vais écrire là-dessus. Est-ce que vous voulez regarder mes photos? Je dis, j'ai 300 000 photos. Et je lui ai montré une petite partie. Et je pourrais en faire un livre. Bon, voilà, et il vient, il revient. Il revient. Peut-être que je ferai beaucoup de livres avec Gerhard. Le premier a été publié. Maintenant, on a en plan deux autres livres. Les petites rues d'Istanbul, Istanbul la nuit.
Istanbul with a bodyguard.
Istanbul with a bodyguard.
Istanbul avec un garde du corps. Non, je ne voudrais pas exagérer la pression politique sur moi. Quand il y avait cette pression, je ne voulais pas en parler. Je voulais pas en parler parce que ça rendrait les choses pires. Maintenant que ça ne l'est plus, pourquoi j'en parlerai?
Mais alors ce balcon, décrivez-nous ce balcon, parce que moi je les ai vus, ces photos.
Le balcon. J'ai réduit ces 8500 photos à 500 et même j'ai développé une petite théorie en ce qui concerne les livres de photos. Avant la photo numérique, les livres de photos étaient une continuation des livres d'art. Il y a un moment, Napoléon fait ceci, Chose fait ça, clac, photo. Ou plus de démocratisation, représentation d'un moment, c'est une image. Alors qu'avec le numérique, on ne fait pas un seul clic. On fait des dizaines de déclics. C'est plus une sélection, mais il faut réduire de 6-7 à 1. Parce que si vous faites ça 1 million de clics, vous choisissez une chose. Ce n'est pas l'esprit de ce que vous faites, ce n'est pas la même chose. La forme, le sentiment de ce que vous faites. Je pense que choisir une photo pour chaque occasion devrait être peut-être dans les journaux. Mais les journaux disparaissent aussi. Moi, j'écris un article dans les journaux, il y a toujours une photo. Maintenant, j'écris un article dans un journal et ils mettent 10 photos numériques. Donc, au lieu d'une seule photo et d'un texte, on en aura plus. On n'a plus de texte. Il y a une introduction pour ce livre Balcon chez Gerhard Stedler. C'est un livre de photos que j'ai pris de mon balcon qui voit le panorama de l'entrée du Bosphore. Et à cette époque-là, j'étais un peu déprimé et monté d'esprit. Je ne pouvais pas les comprendre. Mais quand je prenais des photos, les photos montraient l'état d'esprit ou la dépression que je vivais à l'époque. J'ai écrit un essai sur l'explication de la photographie et des sentiments.
Est-ce que c'est lié à ce qu'on appelle le huzun, qui est cette sorte de soda, diraient les Portugais, mélancolie, diraient peut-être les Français? Est-ce que ces photos ont un lien avec ça, qui est un sentiment, une humeur qui imprègne votre littérature?
Non, pas de façon consciente. Mais quand je vois de la mélancolie, une atmosphère mélancolique en noir et blanc, des jeux de lumière. Certaines viennent des dômes, certaines réflexions sur les toits. J'essaie de le capturer. Oui, ça me semblait très très beau.
Et par rapport à l'écriture, est-ce que ça se combine assez bien, cette activité justement d'immortaliser un moment par plusieurs clics et le fait d'écrire qui est aussi immortaliser des moments?
I have also, oui. I'm taking photos all je prends des photos tout le temps.
Just counted, I have, I think, around 400, je crois photos in my
400
archive.
Photos, je ne sais pas combien, dans mes archives. Je ne veux pas faire de théorie, mais ça fait partie de ma vie. Il y a quelqu'un qui fait au sein de moi un archiviste encyclopédique. C'est aussi, par exemple, des photos de bateaux qui passent devant moi. Oui, j'enregistre tout ça.
On va écouter, Orhan Pamuk, votre premier choix musical qui va nous plonger totalement dans ce nouveau livre, La femme aux cheveux roux. C'est un opéra de marionnettes, Rostam et Sohrab, qui est en fait l'histoire, le pendant de l'histoire d'Oedipe, le pendant oriental de l'histoire d'Oedipe.
Okay. I first read in my life, bah, dans ma vie, puisque je suis allé dans des lycées américains, j'ai lu Oedipe roi de Sophocle quand j'avais 16 ans. Je le dis dans le livre. Je ne peux pas visualiser Oedipe couchant avec sa mère. J'avais 16 ans. Et je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu écrire un truc comme ça? Comment ils ont pu le penser? Comment est-ce qu'on peut le visualiser? Et puis en fait, dans le livre, il y a quelque chose à ce sujet. Et ça m'est resté. 20 ans plus tard, moi, je ne connaissais pas la mythologie perse. Et j'ai écrit, mon nom est rouge. Je voulais apprendre quelque chose à ce sujet. J'en ai lu beaucoup. Et voilà, un second. Oedipe, mais à l'envers. Et cette fois-là, c'est le père qui tue le fils.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Gonai che in bush post me lo perché ci do bezudi be cost be bozi Solemn, be hog and bellomat, chenin, yolemen.
Donc, opéra de marionnettes, Rostam et Sohrab, c'est le premier choix musical d'Orhan Pamuk qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être dans le temps des écrivains. Il publie chez Gallimard La femme aux cheveux roux, son nouveau roman traduit du turc par Valérie Gay Aksoy. On en parlait juste avant d'écouter ce titre, Orhan Pamuk. Sohrab et Rostam, dont il est question dans ce livre, c'est le pendant oriental du mythe d'Oedipe, en fait.
Yes, that's how I felt when I oui, c'est ce que j'ai senti quand je l'ai lu pour la première fois. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse pour les criminels. Oh, je ne veux pas tuer mon père par erreur, je ne veux pas tuer mon fils par erreur. Il y a toujours une mère qui pleure, qui fait ressortir le drame. Ce n'est pas un personnage important, mais elle n'arrête pas de pleurer.
Et
il y a cette tentative très profonde de ne pas faire quelque chose qui est déjà prédit. Dans Oedipe, il y a l'oracle. Et dans Rostam, c'est ne te trompe pas, il faut que tu donnes un signe à ton fils pour que tu puisses le reconnaître. Donne-lui une bague ou un bracelet pour que tu puisses le reconnaître. Mais ce qui est important dans tout cela, c'est que
are the modern's reaction
nous, to quelles sont nos réactions modernes à ces mythes-là?
Actually, Sophocles,
en fait, Sophocle et
Oedipe,
ce n'était pas quelque chose d'aussi radical comme on le voit aujourd'hui. En fait, Sophocle punissait Oedipe. Et le public classique grec était très content que ce type qui avait couché avec sa mère et qui avait tenté de fuir le destin des dieux et faire ces choses horribles et qu'il mourrait. C'était une catharsis.
Purification des passions. Voilà.
Tout le monde était content. Mais aujourd'hui, ben on est du côté d'Oedipe. Nous les modernes, c'est « Ouais, super, Oedipe, tu as brisé les tabous ».
What do we do?
Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous mettons son individualité, son individualisme sur un piédestal. L'individu est important. Mais à l'époque, lorsque le fils du roi est tué, quand Rustam tue son fils, Sohrab, et nous pleurons, on ne rend pas honneur à l'individualité, on rend honneur à l'État, au roi, et on trouve des excuses, la continuité du pouvoir, du trône, la lutte contre les voisins, comme on fait aujourd'hui, non. On trouve des excuses pour légitimer le terrorisme d'État, les horreurs d'un père qui tue la culture, les enfants, l'avenir, aucun respect pour l'individualité des enfants de la nouvelle génération. Ça, c'est le conservatisme.
Moi, je ne
dis pas que le gouvernement agit mal, mais on écrit, mais moi, j'écris des romans qui disent cela.
Et c'est au lecteur, en fait, d'en tirer les conclusions qu'il veut.
Yes, but I,
oui,
but you're asking
oui,
so much,
mais vous
I don't
me posez tellement de questions. Je ne veux pas donner plus de lumière. Je ne veux pas jeter plus de lumière sur ce roman.
Alors, dans ce nouveau livre, on est à Istanbul, Orhan Pamuk, et à côté d'Istanbul, dans les années 80, dans un endroit très sec, où un jeune apprenti et son maître creusent un puits. C'est pour ça que je parlais de conte tout à l'heure, parce qu'il y a l'idée de creuser un puits. Entre les deux, il y a de la sévérité et de la tendresse. En fait, le garçon, il s'appelle Cem. Il n'a plus de père parce que le père est parti avec une autre femme. Et ce maître, lui, il s'appelle Mahmoud. Il remplace un peu le père qui est parti. Il est investi de pouvoirs quasi magiques comme tous ceux qui connaissent les secrets de la terre. Et il est dur pendant le travail et il est tendre le soir venu. Mais dans le roman, l'eau se fait attendre et c'est très dangereux, surtout quand pour un jeune homme, ben évidemment, il y a les tentations de la petite ville qui est toute proche et qui, elle, monte comme l'eau qui ne vient pas. Ces tentations montent dans le cœur et dans le corps de Cem parce que il y a une troupe d'artistes, hein, de comédiens dans cette ville, notamment une femme aux cheveux roux qui le fascine absolument, qui est plus âgée que lui. C'est un tout jeune homme, il n'a jamais encore fait l'amour. Elle, c'est une femme accomplie. Et ce jeune homme va faire l'amour avec cette femme qui n'était pas pour lui. De retour au campement, un accident va se produire dans le puits. Et puis, et là je m'arrête, 20 ans après, il est devenu un homme d'affaires dans une Turquie en plein développement économique. Et il va être confronté avec ce passé qui lui demande des comptes. C'est un livre qui est terrible, c'est un livre qui est délicieux aussi. Il est question de théâtre, de légendes, de tableaux, de musées, de puits, d'énigmes qui se cachent au fond des puits peut-être, et puis du combat éternel, on en a parlé, des fils contre les pères ou des pères contre les fils. Alors c'est vrai que d'un côté, puisqu'il y a ces mythes dont on a parlé, il est fasciné, votre personnage, par le mythe d'Oedipe, qu'il raconte d'ailleurs à son maître, et puis il est fasciné aussi par cette histoire de Rostam et Sohrab. Du côté occidental, ce sont les fils qui tuent leur père, sans le savoir, et de l'autre, du côté oriental, les pères qui tuent leur fils. Où se place la Turquie qui est entre les deux? D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser, Orhan Pamuk. Est-ce que vous souscrivez toujours à cette analyse d'une Turquie qui ferait le pont entre les deux cultures, l'Occident et l'Orient? Ou est-ce que c'est un cliché, ça?
Bleach is now such a naive expression that belongs to 30, 20 years.
Vous savez, le pont, c'est une expression tellement naïve qui
est cliché, hein.
Ouais. Il y a 20 ans. Non, non, maintenant, vous savez, c'est les ponts. C'est l'Europe aujourd'hui, les ponts. Mais vous avez dit tellement de choses. La femme aux cheveux roux, je peux en parler. L'attraction quand vous avez 16, 17 ans et que vous voyez une belle femme aux cheveux roux. Wow. Ça, c'est le sentiment le plus générale qu'on peut avoir à travers le monde.
Red-haired woman
et les femmes aux cheveux roux sont différentes dans ma partie du monde. Si vous regardez Shakespeare ou Sylvia Plath, les femmes rousses sont des femmes différentes, oui. En colère, incontrôlable, elle peut faire des choses imprévisibles, elle est un peu mystérieuse. Même chose dans ma partie du monde en ce qui concerne les femmes rousses. Mais ce n'est pas naturel, les femmes rousses comme en Irlande ou dans les pays occidentaux. 95% des rousses en Turquie, ce sont des femmes qui ont les cheveux teints. Et ça signifie qu'une femme rousse, elle suggère un personnage, un caractère. Statistiquement, si vous voyez une femme rousse, probablement, il y a une possibilité de faire l'amour avec elle plus élevée qu'avec une femme normale. Il n'y a pas tellement de différence, mais bon. Si une femme en Turquie ou dans ma partie du monde teint ses cheveux en roux, ça signifie qu'elle dit quelque chose. Elle résiste à la culture des hommes ou elle joue avec eux en étant plus sexy. Donc le roux est plus visible dans ma partie du monde et plus attirant. Plus mystérieux, étrange.
Il y a cette image, j'en parlais, de ce maître puisatier qui construit donc un puits, qui a la science finalement de là où l'eau peut couler, et puis cet apprenti qui voit que l'eau n'arrive pas. Il y a cette femme rousse dont on parlait. J'aurais savoir, Orhan Pamuk, comment vous travaillez. Est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, de construire un puits quand vous écrivez? Est-ce qu'il y a la dimension d'accident, finalement, dans la construction narrative?
Vous savez, ça, cette histoire, elle est basée sur la vie réelle. Moi, je l'ai vu il y a 20 ans. Ce puisatier creusé, et comme dans le roman, il avait cet apprenti. Et moi, j'écrivais un roman en les regardant, comme tous les écrivains le font à l'occasion, et je pensais que c'était un père et un fils. Ils étaient avec moi sur une île proche d'Istanbul à la fin des années 1980. Après un certain moment, ils sont venus me voir et m'ont dit, on peut avoir un peu d'électricité, on peut avoir un peu d'eau. Je dis, oui, bien sûr. Et je leur dis, je suis un écrivain. Un journaliste, est-ce qu'on peut parler de votre art? Et j'ai fait une interview avec eux. Moi, je voulais connaître leur vie. Et une fois que le type m'a raconté, ils sont allés à l'extérieur d'Istanbul et la terre là-bas est différente. Autrefois, il y avait un lac. On les a pris vers un endroit où il y avait, dans l'Antiquité, ou en préhistoire, un lac. Et je creuse, il creuse, et il commence à voir des squelettes de poissons, mais pas d'eau. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette histoire. J'ai pensé que Rostam et Sohrab étaient une bonne façon d'expliquer ce qu'est l'autoritarisme. Et si je mélangeais ces trois choses, Rostam et Sohrab, le mythe d'Oedipe et le fait de creuser un puits, c'était vraiment quelque chose de bien. Et toute mon enfance, j'ai vu des puisatiers creuser des puits dans les années 70-80, avec beaucoup de gens qui venaient, ces immigrants de l'intérieur, qui vivaient dans des bidonvilles. Le gouvernement ne pouvait pas leur donner de l'eau. La seule façon de survivre, c'était de trouver quelqu'un qui trouverait de l'eau pour vous dans votre jardin. Parfois, il trouvait, parfois, il ne trouvait pas. Mais s'il trouvait de l'eau, toute votre vie était changée. C'est pour ça qu'on attribuait des pouvoirs magiques à ces puisatiers. Parfois, ils en abusaient, faisaient semblant de pouvoir trouver de l'eau. J'ai vu beaucoup de ces gens-là, mais ces gens-là ont disparu, comme, vous savez, je suis intéressé par ces gens qui disparaissent, et j'ai toute une banque d'interviews.
Oui, c'est ça, quand vous dites interview, c'est le romancier qui, en fait, interview ces gens de la réalité pour avoir la matière technique, en fait, sur ce qu'est leur travail.
C'est pas pour être publié dans les journaux, donc ces interviews, bien entendu. Quand j'écrivais cette chose étrange en moi, j'ai eu interviewé plus de 5 personnes. Et quand j'ai écrit Chevdet Bey et ses fils, j'ai interviewé des gens qui travaillaient sur les chemins de fer. Et je me suis dit, ah mon Dieu, ces gens étaient les amis de mes grands-parents, ils devaient avoir 120 ans. Moi, je les avais interviewés dans les années 70. Je fais des interviews avec ces gens. S'ils sont ouverts, ben oui, on les interviewe.
Et quand justement vous étiez en train d'écrire, je crois que c'était le livre noir de Black Book, quand vous rencontriez ce maître puisatier et son disciple, avec lequel vous êtes non pas devenu ami, mais en tout cas il y a eu une relation. Est-ce que vous vous êtes, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, demandé si la comparaison pouvait être valable entre creuser un puits et faire un roman? Est-ce que finalement on peut comparer?
Voilà. Ouais. Oui, bien sûr. En fait, c'est un roman court, partiellement inspiré. C'est comme Le vieil homme et la mer, vous savez, Hemingway. Quand un type est à la poursuite d'un poisson, et que quand Hemingway a publié le livre, vous savez, Hemingway est le pêcheur et le poisson, c'est le livre. Et lui, il n'était pas très content, parce que finalement, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de pêcheur, et les gens disaient, non, c'est lui qui est paranoïaque. Non, je ne veux pas que les critiques disent, ah ben non, Pamuk creuse pour trouver de la littérature. Non, pas du tout. Si on écrit un roman court, ça devient tout de suite quelque chose qui est appelé allégorique, inconsciemment. Moi, je suis prof de littérature comparée, mais ça, c'est consciemment allégorique. Peut-être que c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas, ou que ça fonctionnera mieux, je ne sais pas.
Oui, mais la question qui m'intéressait, c'était la notion d'accident, parce que dans ce livre, à chaque fois qu'il creuse, qu'il descende, il coule du béton, vous nous donnez énormément de détails techniques, il y a le risque d'accident. Et d'ailleurs, l'accident, on peut le dire, ça donnera envie aux gens de le lire, l'accident se produira. Est-ce que dans l'activité de romancier, est-ce que cette dimension accidentelle chez vous est importante ou est-ce que tout est planifié? C'est-à-dire le contraire d'un puits, en fait. Un puits, il peut y avoir des accidents. Vous,
je connais tellement d'écrivains, des amis écrivains. Et j'ai lu tellement de biographies d'autobiographies d'écrivains. Tout ce qu'on sait comparé aux autres, moi, je suis encore plus dans la planification. Et comme je vous l'ai dit, je suis un chercheur ou comme un anthropologue. Je fais cette recherche. Mais à ce moment-là, la beauté de l'écriture, c'est qu'il y a toujours des accidents. Vous appelez votre copine, « Ah, j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas prévu. » Ah, voilà, on est vachement content. Il n'y a pas d'écriture sans ces accidents. Je lis des livres, et ça ne s'arrête pas, même dans les livres. Il y a ces interviews ne se retrouvent pas, ou se retrouvent parfois dans les livres.
Je voudrais lire, Orhan Pamuk, justement, un extrait. C'est le moment où la femme aux cheveux roux, donc qui est actrice, est sur scène dans une sorte de théâtre itinérant et joue justement cette mère qui pleure devant ce père qui a tué son fils. Donc c'est un passage de Rostam et Sohrab porté justement sur la scène. Car la femme aux cheveux roux aussi pleurait. Le vieux guerrier s'assit par terre, il serra contre lui le corps du jeune guerrier mourant, le tint dans ses bras et fondit en larmes. La sincérité de ses pleurs nous toucha, nous autres spectateurs, et nous émut d'une façon inattendue. Le vieil homme pleurait de remords. Ce sentiment de remords se transmit à moi aussi. Jamais dans un film, dans une bande dessinée, je n'avais vu cette émotion s'exprimer aussi ouvertement. Jusqu'à maintenant, le remords était pour moi quelque chose qu'il n'était pas possible de traduire, ou plutôt possible de traduire que par des mots. Or, à la seule vue de cette scène, la souffrance du remords m'atteignait de plein fouet, comme la réminiscence d'une chose vécue, puis tombée dans l'oubli. La femme aux cheveux roux était assaillie par une profonde douleur à la vue des deux guerriers derrière lesquels elle se tenait. Elle semblait en proie au même remords que les hommes qui ne pensent qu'à s'entretuer. Des sanglots redoublèrent. On n'entendait rien d'autre dans le chapiteau. Peut-être que ces personnages avaient entre eux un lien de parenté, de même qu'il en existait un entre la femme aux cheveux roux et ceux qui l'accompagnaient. Les pleurs de la femme aux cheveux roux se transformèrent en complaintes funèbres, puis en poème, un poème bouleversant qui s'étirait comme une histoire. Dans son long monologue final, je l'écoutais parler des hommes, de ce qu'elle avait vécu avec eux, de la vie, de sa colère, mais dans le noir, il lui était difficile de me distinguer. Et ça continue, et ça continue. Est-ce que ce mythe-là, cette histoire de Sohrab et Rostam, elle est aussi connue pour des lecteurs orientaux que l'est Oedipe, puisque Freud a fait de Oedipe une sorte de paradigme total, est-ce qu'elle est aussi connue?
Good question.
Excellente question. Ils savent en Iran. J'étais à Téhéran Il y a trois mois, tout le monde connaît Rustam et Sohrab. Qui ils sont, ils connaissent l'histoire. Comme en Angleterre, on connaît Hamlet. Mais les Turcs ne connaissent pas. Ils connaissent l'histoire. Comme si, ouais, comme dans un film, il y a un père cruel qui tue son fils, tout le monde pleure, et c'est la continuité de l'usine, etc., ou peu importe. Mais ils ne savent pas qu'il s'agit de Rustam et Sohrab. L'occidentalisation de la Turquie, c'est aussi l'oubli du passé culturel. Ça n'orientalise pas, ça n'occidentalise pas la culture, mais on l'oublie. C'est pour ça qu'on admire les Perses, parce qu'il y a une continuité immense de leur culture. Les Turcs ont été plus occidentalisés, comme des guerriers qui vont vers l'Ouest. Les Turcs, je le dirais autrement. En écrivant « Mon nom est rouge », j'ai découvert ou redécouvert, même pour l'intelligence modernisée turque, ce trésor d'anciennes histoires, et je l'ai renouvelé. Ils ne connaissaient pas ces histoires, mais ces histoires, c'était comme des archétypes jungiens, quelque part dans leur esprit. Et Jung a une métaphysique un peu bizarre, mais il a inventé cette idée. Je respecte Jung pour la découverte des archétypes, ces choses que nous avons pour comprendre l'importance du passé, pas des choses diplomatiques ou historiques, mais des trucs très importants qui restent en nous.
On va écouter votre deuxième choix musical, Orhan Pamuk. Vous avez choisi du Verdi, quatuor à cordes en mi mineur. On écoute et on vous demande pourquoi Verdi.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Verdi, quatuor à cordes en mi mineur, c'est le deuxième choix musical d'Orhan Pamuk qui publie chez Gallimard son nouveau roman « La femme aux cheveux roux » traduit du turc par Valérie Gay Aksoy. Pourquoi ce choix de Verdi, Orhan Pamuk ?
Ok, but first.
Eh bien, tout d'abord, Verdi me rappelle le musée de l'innocence avec le personnage mélodramatique principal meurt.
In Rue Manzoni in Italy, which is the geography of Verdi,
and he is following géographie de Verdi et qui suit ses traces de façon mélodramatique. Et ironie des ironies, j'écris un roman historique et je me suis un petit peu renseigné sur ce dont on pouvait parler à cette époque-là. Eh bien, à cette époque-là, c'était la mort de Verdi. Voilà. Ça se passe en 1901. Verdi est mort en janvier 1901. Lorsque c'est au cœur de mon roman, et donc je rappelle, et c'est pour ça que j'ai mis Verdi ici.
Un roman qui se passe à Istanbul, le prochain, c'est le prochain livre, c'est ça ?
Mon nouveau roman est à l'extérieur d'Istanbul, mais au sein de l'Empire ottoman. où il y a la lèpre, la troisième pandémie qui vient de la Chine à travers l'Inde et toute l'Europe. Voyez que des mauvaises choses venaient de l'Est et ils se sont demandé, mais pourquoi est-ce que les Turcs ne font pas ce qu'il faut faire? Pourquoi est-ce que les Turcs ne se mettraient pas en quarantaine pour que cette épidémie ne vienne pas en Europe? L'imposition de la quarantaine, c'est comme l'imposition de la modernité à des conservateurs. Donc c'est à la fois réaliste et allégorique, comme les autres romans.
On a hâte de lire en attendant les lectrices françaises, les lecteurs français peuvent lire cette femme aux cheveux rouges. J'en redis un mot pour celles et ceux qui n'arriveraient que maintenant. Dans ce nouveau livre, on est à Istanbul et à côté d'Istanbul, dans les années 80, dans un endroit très sec. Et on découvre un jeune apprenti dont le père est parti avec une autre femme, qui est élevée par sa mère et qui, pour gagner un petit peu d'argent, avant de reprendre ses études, décide de suivre un maître puisatier qui doit creuser un puits dans une région à l'ouest d'Istanbul pour faire jaillir de l'eau et pour construire une usine, pour qu'une usine puisse s'établir. Et l'eau ne vient pas, vous étudiez la relation entre ce maître puisatier et ce disciple et on se demande qu'est-ce qui va arriver, quel accident va se produire, on attend, c'est très haletant. Et puis encore plus haletant, eh bien la présence dans la ville qui est juste à côté d'une femme aux cheveux roux très belle qui fascine complètement votre héros et avec laquelle il va vivre sa première nuit d'amour. Et puis 20 ans plus tard, cette nuit d'amour-là a eu en fait des conséquences qui font que le passé va venir redemander des comptes à ce jeune homme qui est devenu un homme puissant, qui s'appelle Cem, qui travaille dans l'immobilier. Et ce qui est intéressant, c'est que vous entrecroisez deux mythes dans ce livre. Orhan Pamuk est en train de prendre des photos. Deux mythes, le mythe d'Oedipe, puisqu'il est question des pères et des fils, c'est un roman aussi sur la filiation. Et puis l'avatar oriental de ce mythe, qui s'appelle l'histoire de Sohrab et de Rostam, où cette fois-ci, c'est pas un fils qui tue son père sans le savoir, mais un père qui tue son fils sans le savoir, laissant à chaque fois, finalement, la mère totalement éplorée. Qu'est-ce qui intéressait, je voudrais qu'on en redise un mot, Orhan Pamuk, parce qu'on vous connaît comme l'écrivain qui hante un peu les souvenirs de sa ville d'Istanbul. Vous aviez une image dans ce film dont je parlais tout à l'heure, Innocence of Memories, vous parliez de l'image de vous comme errant dans un monde délabré, un monde de souvenirs, un monde un peu de fantômes, etc. Qu'est-ce que ça apporte à un écrivain contemporain comme vous l'êtes de retravailler sur des histoires anciennes comme ce mythe d'Oedipe ou cette histoire de Rostam et Sohrab, parce que de nombreux romanciers l'ont fait. André Gide l'a fait avec Thésée, Cocteau l'a fait avec Orphée, Joyce l'a fait avec l'Odyssée.
Peut-être pour des raisons différentes. C'est pas une lutte littéraire avec un texte ancien, mais quelque chose, une relation très directe avec les lecteurs. Je crois que ces anciens récits forment la conscience de mes lecteurs, comme des archétypes jungiens, comme des histoires, Ferdowsi. Vous savez, c'est le Shakespeare turc. C'est lu dans les lycées. Hamlet, par exemple, Shakespeare. Mais en fait, les Turcs, les jeunes Turcs, les jeunes gens et jeunes filles turques ont redécouvert leurs grands auteurs par le cinéma. Le cinéma, que ce soit, alors qu'en Iran ou ailleurs, on le fait pas comme ça.
Oui, mais vous, comme romancier, d'avoir comme ça une matière à retravailler, parce que ce qui est absolument étonnant, et je voudrais vous poser cette question-là, Orhan Pamuk, c'est que le lecteur, en tout cas occidental, ne connaît pas l'histoire de Rostam et Sohrab et se dit « c'est dingue, on a cette histoire d'Oedipe où un père et un fils qui se reconnaissent pas se tuent, le fils tue le père » et en fait en Orient, c'est le contraire et c'est le fils qui, les pères qui tuent les fils. Alors est-ce que vous avez découvert ça vous-même?
Firdevsi,
oui. C'est comme Homer. C'est un compilateur de récits. Il n'a pas inventé. Probablement, Rostam et Sohrab est influencé par Oedipus Rex, par Oedipe Roi. Peut-être, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas exagérer. Il y a un mythe fondateur de la civilisation européenne, Sophocle, Œdipe roi. L'autre, c'est Firdevsi, c'est le livre des rois. Shahnameh et Rustam et Sohrab, c'est une histoire qui fait 5 pages. Ce sont des grands textes de 2 grandes civilisations. Et pour simplifier les choses, ce sont les voisins de la Turquie. L'un est iranien, l'autre est grec. On a des frontières avec les deux. Nous, on fait le sandwich. Et moi, c'est tout simplement... C'est enfantin. Je raconte les 2 histoires. C'est aussi simple que ça.
Mais ça, vous l'avez découvert comment, Orhan Pamuk? Vous vous êtes dit, ah, c'est génial, je vais en faire un roman? Ou c'est arrivé un petit peu accidentellement?
Non, depuis assez longtemps. Maintenant que je suis prof de littérature comparée à Columbia, je me suis gratté un petit peu la tête et j'ai tenté d'enseigner la littérature comparée. Mais en voyant la Turquie aller vers la dictature, je ne me suis pas dit, bon, je vais écrire quelque chose sur les...
Et là, on voit. Il entend tout, Orhan Pamuk, Michel.
En voyant la Turquie aller vers un régime autoritaire, je me suis dit, je vais reprendre ces mythes, et là, je vais leur rentrer dedans. Je devrais ajouter, on a encore des élections. Malheureusement, ce gouvernement reçoit la majorité des votes. Ça, c'est la vérité de ces libéraux occidentalisés.
Est-ce que, quand vous écrivez justement cette confrontation entre les 2 mythes, vous en faites un roman? Évidemment, mais on sent que ces 2 mythes se confrontent, s'affrontent, et c'est une révélation absolument géniale pour le lecteur. Est-ce que vous vous servez de ces anciens mythes, Orhan Pamuk, pour délivrer aussi quelques messages? Parce que dans le livre, il y a un passage que j'aime beaucoup, parce que la femme de Chem a cette phrase, alors qu'ils sont en train de lire un livre qui s'appelle « Le despotisme oriental » d'un certain Karl August Wittfogel, qui a eu beaucoup de succès. C'est un livre qui a été publié en 1957. Et dans ce livre, était dit que pour organiser ces réseaux hydrauliques, il fallait plutôt des esclaves dévoués que des individus libres. Et donc, la femme et l'homme parlent de ça, et la femme dit « les souverains qui traitent leurs femmes et leurs fonctionnaires de la sorte, finissent par tuer leur propre fils. » Et là, on retrouve l'histoire de Rostam et Sohrab, où c'est le père qui tue le fils. Est-ce que vous vous servez de ces vieux mythes pour délivrer des leçons aux contemporains que nous sommes ?
Vous savez, l'écrivain actuel d'allégories et de romans réalistes ne devrait pas répondre à cette question. Moi, je dois dire, comme Umberto Eco l'a fait, votre interprétation est une des interprétations possibles. Et je vous en remercie.
Fabula.
Et j'admire Umberto Eco. C'était un ami. Je suis allé à Bologne pour enseigner avec lui. Oui.
Vous évoquez une image qui ne vous quitte jamais, Orhan Pamuk, hein, je le disais, celle d'un homme seul qui erre dans un monde délabré. Vous adorez les brocantes, vous adorez les métiers qui vont disparaître. Dans le dernier, c'était les fabricants de boza, cette boisson ottomane qui existe encore, mais plus comme avant. Là, c'est comment on creuse un puits. À l'époque, il n'y a plus beaucoup aujourd'hui de puisatier. On fait ça de façon automatique. Est-ce que cette obsession de ce qui ne sera plus est le fondement de votre activité de romancier?
Ça en fait partie. Mais il y a un aspect nostalgique à cela aussi. Mais tous les romanciers, comme les photographes, ont un désir d'enregistrer. Si quelque chose disparaît de l'humanité, dans tous nos cœurs, en art, en photo, il faut garder ça, il faut le conserver quelque part, il faut garder un souvenir de cela. Il y a aussi ce type de muséographe, ce désir de conserver les choses, de les enregistrer, les conserver. Pas des idées très prestigieuses, mais simplement ça, voilà.
Vous l'avez dit hein, tout à l'heure, d'ailleurs parfois vous le dites de façon radicale, je suis un peintre raté. parce que vous vouliez en fait être peintre. Vous admiriez d'ailleurs Pissarro, Utrillo. Vous avez réalisé d'ailleurs des centaines de dessins en noir et blanc de votre ville, Istanbul. Ils sont magnifiques. Ils sont d'ailleurs dans un cahier de Lerne qui vous est consacré, qui est absolument superbe. Vous êtes devenu le romancier qu'on sait, avec le succès qu'on sait, qu'on connaît. Est-ce que finalement, maintenant, par rapport à ce que vous nous disiez pour rendre hommage à ces choses qui ont disparu, à cette mémoire, est-ce que finalement, c'était pas mieux de le faire comme romancier que comme peintre, finalement ?
Yes, maybe.
Peut-être.
Mais
il y a ce désir enfantin en moi de montrer ce que j'ai peint tout au long de ma vie. J'étais, je suis un peintre qui ne le fait qu'en privé. Parfois, je le dis à mes amis. Je veux sortir de l'armoire. En fait, cette expression, elle n'est pas utilisée dans ce sens-là, en fait. Mais moi, l'artiste en moi qui travaille tout le temps, eh bien, ressort dans le musée de l'innocence. En 2020, nous viendrons au musée de la Croix à Paris pour montrer quelques vitrines, quelques boîtes, quelques dessins du musée de l'innocence que j'ai créé.
Alors là, il faut préciser quand même, j'ai eu la chance de visiter ce musée avec vous, Orhan Pamuk, il y a déjà très longtemps, il faudra que je revienne. C'est absolument génial. On en avait parlé lors de la dernière émission que les auditrices et les auditeurs peuvent réécouter. Mais ce Museum of Innocence, ce musée de l'innocence, qui fait référence à un roman que vous avez écrit. Et en fait, le roman est devenu un musée. Et en fait, dans ce musée, il y a des vitrines. Chaque chapitre correspond à une vitrine. Chaque vitrine correspond à un chapitre. Et à l'intérieur de ces vitrines, il y a les objets dont on parle dans le livre. Les mégots de cigarettes que fumait Fuzun, la si jolie femme, l'amoureuse. Il y en a 4600, je ne sais plus. Le lavabo avec le savon à barbe du père, du héros, que vous avez ou retrouvé dans des brocantes, ou que vous avez refait grâce à des designers de vos amis, comme ils étaient à l'époque. Ce musée de l'innocence, il faut absolument aller le visiter. Comment ça se passe à Istanbul, d'ailleurs? Il est toujours pour le musée, les gens y vont toujours en...
Okay, when bombs, when, because of politics, there were bombs in 2016.
Vous savez, il y a eu des bombes en 2016.
And then, next year,
et l'année d'après, il y a eu un coup d'état militaire.
Went down in tourism, so
il y a eu une baisse de tourisme, tous les... Tous les endroits touristiques sont, ne fonctionnaient plus. Mais en 2016, voilà, les chiffres sont remontés, nous sommes très, très heureux. Mais une chose malheureuse s'est produite, c'est que les visiteurs américains et du nord de l'Europe ont été remplacés par des Chinois et des Asiatiques.
Qui ont tous lu le livre.
Et le musée de l'innocence est très, très célèbre en Chine. Il y a beaucoup de Chinois qui viennent.
Et ce que vous allez faire au musée de la Croix, c'est donc une réplique de ce musée de l'innocence, c'est ça ?
Oui, on a déjà fait des exposer des répliques à Milan et à Bacchetti Balzacchi. C'est le musée de Kemal Bose. Et il y a une galerie à Londres, Courtauld Gallery, et ça sera aussi les commissaires du musée de la Croix sont venus voir à Istanbul. Ça sera un artiste français très important qui sera exposé aussi là. Je ne vais pas dire son nom. Et voilà, et ça sera très très intéressant pour les gens qui sont intéressés par mes romans.
Je crois savoir deviner, quelqu'un qui travaillerait peut-être sur la mémoire. On n'en dit pas plus. En tout cas, vous avez réalisé avec ce musée le rêve que nous proposait Borges, c'est-à-dire permettre au lecteur de rentrer physiquement dans un livre.
Yes.
And in fact, oui, et en fait,
the feeling...
Le sentiment
du
visiteur idéal, peu importe que lui ou elle ait lu le livre, mais c'est une histoire imaginaire. On entre dans le musée, on voit tous les objets d'une histoire imaginaire, donc il y a une sorte de confusion là.
En tout cas, vous faites mentir un peu Mario Vargas Llosa qui dit que le prix Nobel parfois fait ressembler les écrivains à des statues. Vous ne ressemblez pas du tout à une statue, Orhan Pamuk. Vous êtes une statue vivante, alors.
Écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Parce que tous mes amis me disent, mais t'es comme un gamin. Jamais arrêté de ma vie. Mais croyez-moi, je suis quelqu'un de sérieux.
Merci beaucoup, Orhan Pamuk.
Voilà. C'était un tel plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
Joie partagée. Je rappelle le titre de votre dernier livre. Donc, La femme aux cheveux roux, c'est chez Gallimard, traduit du turc par Valérie Gay Aksoy. Merci donc, Orhan Pamuk.
Thank you so much. It's so
Merci
nice
beaucoup.
To be in Paris.
C'est tellement bien d'être à Paris.
Merci, Michel Zlotowski, l'interprète d'Orhan Pamuk. Le temps, et Orhan Pamuk va prendre une nouvelle photo. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, à la technique Yann Fressy. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an, et même à l'infini, pour réécouter sur franceculture.fr cette émission spéciale avec le prix Nobel de littérature, Orhan Pamuk.